Annette et le criminel, chapitre 29. Annette frémit en voyant l'appareil de puissance déployé pour garder un seul homme qui toujours fut résigné. Les cours, les corridors même, étaient garnis de soldats et de gardiens. Ce fut en arrivant à son cachot que cette terrible idée, dont elle n'avait jamais vu la conséquence face à face, « Demain il mourra !» vint frapper son âme. À ce moment, la mort se mit en elle, et quand on lui ouvrit la porte, elle apparut à Argot comme l'ombre d'Annette, et non comme Annette elle-même. Il en fut frappé et lui dit « Hé, qu'as-tu, mon ange? Tu es changé !»« Oh oui, » dit-elle, « car je t'aime mille fois davantage. Je t'apporte tout ce qu'il y a de tendresse sur la terre, réuni dans un même cœur, et ce cœur t'appartient. » Ici, des larmes vinrent dans ses yeux, et elle lui ajouta « Demain !»« Demain !» reprit-il. « Oh, ma chère âme, demain, ton époux prend son vol vers les cieux. L'échafaud est la marche dernière qui mène au temple, quand le cœur est devenu pur. Vis avec cette idée, et pense que la mort est plus légère que les remords. Va, l'enfer, en voyant que je tâchais de lui échapper, conduit par toi, n'a pas lâché un instant sa proie. Il m'a tenté jusqu'au dernier moment. Et quand ils m'ont délivré, l'odeur de la poudre, les cris, l'incendie, avaient je ne sais quel attrait que je n'ai repoussé que par ton image adorée. Alors j'ai vu que j'étais devenu vertueux. Je le suis maintenant. Et la terre est pour moi trop étroite. Elle me rappelle mes crimes. Ma guérison sera complète sur ce tréteau, devant cette foule. Dieu du ciel, faites que je ne le quitte pas. Reste en exil, répondit Argot, ange tutélaire que le Dieu de bonté envoya au criminel pour lui donner salut et joie. Ta tâche n'est pas accomplie. Rends mon ami vertueux. Guide mon fils dans la voie céleste. Oui, dit-elle enflammée et le visage brillant. « Car tu seras toujours avec moi. L'étoile brillante, dont le feu pur guide le voyageur, est éternelle comme la voûte qu'elle éclaire. Mon ami, tu seras cette étoile pour Annette, pour ta famille. Et comme une grande pensée dirige, et le poète et le peintre, tu animeras toute notre vie. Si je reste !» ajouta-t-elle avec un soupir. Une lampe, accordée par faveur, éclairait le cachot et répandait une lueur funèbre. C'était la dernière nuit du condamné, et quoique toute créature vivante fuit le meurtrier, Argot avait entre ses bras une femme qui gracieusement caressait sa chevelure, son visage. Allez voir, on eût dit Léandre reçu, à la faveur d'une nuit orageuse, par Héros. Et le lendemain, les flots devaient emporter l'amant chéri dans l'immense abîme. Annette, effrayée, jeta un cri perçant. En vain son mari la pressa-t-il de lui dire ce qui avait occasionné ce cri. Elle se garda bien de lui avouer la vision horrible qu'elle venait d'avoir. Elle avait revu, malgré elle, cette ligne rouge sur le cou d'Argot, cette ligne fine comme la lame d'un couteau. « Annette, lui dit Argot avec calme, écoute, oublie, je t'en supplie, le cruel moment de demain. Songe que j'ai vu tant de fois la mort, que je sais que ce n'est rien. Pense que dans ce cercle qui paraît affreux et où ma tête sera irrévocablement prise, je serai telle qu'aux Italiens, lorsque tu m'appris que nous serions unis. Sois digne de moi, grande, énergique. » Et songe que je te fais ma dernière prière. Accorde-moi ce que je vais te demander. Quand je serai mort, ensevelis-moi toi-même, à la nuit, et que Vernier fasse élever un modeste monument qui dise combien je fus criminel, mais combien aussi je fus repentant. Annette, Annette !» Elle pleurait, son courage l'abandonnait. « Tu mourras donc ? » disait-elle. Et pendant quelques instants, ce fut tout son discours. Elle se jeta à genoux et dit avec ferveur, « Dieu, père des hommes, tu le sauveras au moins. Tu lui donneras l'entrée de l'Éden. Ah, que nous y soyons réunis à jamais. » À ce moment, un rayon de la lune, par l'artifice de son cours, entra par les barreaux et vint illuminer Argot et Annette qui étaient à genoux. Annette regarda son époux et le vit si brillamment éclairé et si resplendissant par l'effet de cette lueur qui se répandait avec grâce sur les surfaces, qu'il se leva et dit « Ah, voilà mon époux de gloire, le voilà, il est prédestiné pour les cieux, et c'est moi qui l'y ai conduit. » Cette idée lui donna une force, un courage, une énergie que les discours d'Argot fortifièrent. Et, dans un moment d'enthousiasme, « Faisons la Pâque, comme les Hébreux quand ils partirent pour la terre promise !» s'écria Argot. « Un dernier repas en Égypte, une dernière nuit remplie par l'amour et la religion. Entourons le dernier acte de l'homme, vivant de tout ce qu'il y a de grand, de beau, de délicat. » « Son dernier baiser m'a donné la mort, » dit Annette en fermant la porte de la prison. « Je ne le verrai donc plus. » Elle était comme égarée. Elle courait par toutes les rues de Valence sans pouvoir trouver son chemin. Le crépuscule du matin avait une fraîcheur qui la faisait frissonner sans qu'elle s'en aperçût. Elle vit au loin des hommes qui travaillaient sur une place avec de la lumière. « Je leur demanderai mon chemin, » dit-elle. Elle s'avança vers eux avec un frisson glacial et, les yeux hagards, elle prit la main d'un homme en veste en lui disant « Mon ami, quelle heure est-il ? » « 5 heures. Pouvez-vous m'indiquer mon chemin ? » « Volontiers, où allez-vous ? » « Pourquoi donc ces bois, ces charpentes ? » « Elle est folle !» dirent en chœur les 3 hommes à voix basse. « Vous ne voyez donc pas que c'est l'échafaud et que ce matin l'on... » Elle n'entendit pas l'horrible mot, car l'infortuné jeta un cri et tomba entre les bras du bourreau. À ses marques de douleur, il reconnut Madame de Durantal. Elle était là, à 2 pas de l'hôtel de Charles. Les 2 hommes la conduisirent à la porte, l'assirent sur la borne, sonnèrent et se retirèrent en disant « Pauvre femme !» L'autorité avait jugé à propos d'indiquer l'exécution pour le matin, afin de ne pas laisser le temps aux amis du condamné de réunir des forces et de commettre une seconde fois des attentats aussi grands que ceux dont Valence avait été témoin la nuit du jugement. Néanmoins, malgré toutes les précautions prises pour exécuter M. de Durantal devant le moins de monde possible, la nouvelle de son arrestation et celle de son supplice matinal semblèrent voler. L'on prévit, par l'espèce d'instinct qui anime les masses, que cette sanglante tragédie du peuple aurait lieu le lendemain. L'on vit passer, l'on entendit construire l'échafaud, et de toutes parts, le peuple accourut. La place était déserte, l'échafaud se trouvait au milieu, et il était gardé par un escadron tout entier de gendarmerie. Cette place ne semblait pas assez large pour contenir les flots du peuple qui s'y pressait. On ne voyait, du haut des fenêtres, qu'une mer agitée que formaient les têtes noires des hommes et les têtes garnies de bonnets d'une multitude de femmes. On était pressé comme pour une fête publique, et il y avait un épouvantable flux et reflux, car le monde, en abondant, causait des mouvements intestins parmi cette foule, comme s'il y eût régné un ouragan. Les fenêtres étaient toutes ouvertes et garnies de spectateurs, comme pour un tournoi. Si elle n'était pas pavoisée, il y avait, pour la commodité des gens qui regardaient, des coussins, des tapis. Ne faut-il pas être à son aise pour voir un supplice ? Les fenêtres avaient même 2 ou 3 rangées de têtes. On loua des croisées, tant il fut difficile de savourer la dernière douleur d'un homme. Il y avait beaucoup de femmes. En France, au 19e siècle, et cette scène, si elle ne se renouvelle pas souvent à Valence, se reproduit souvent dans ce royaume pendant l'année. Si la postérité lisait des romans, et s'il ne mourait pas en un jour, elle demanderait où était située la France. En Europe. là où furent jadis la Grèce et Rome. Les uns riaient, les autres parlaient. Il y avait un brouhaha comme au théâtre avant que la pièce ne commence. Peu s'en fallait que quelques voix ne se plaignissent des retards. Cependant, on doit dire que généralement, le condamné excitait le plus grand intérêt. Et lorsqu'on parlait de Madame de Durantal, pas une âme ne restait froide à son malheur. On se racontait la manière dont Jacques avait été pris, et quelques-uns exprimaient le regret de ne pas avoir appris qu'il se fût enfui. Aussitôt qu'il paraissait quelque chose dans la rue par laquelle le tombereau devait passer, un hurrah s'élevait, produit par je ne sais quel sentiment. Pour un homme qui raisonne, il y a de quoi frémir. Si cette masse de peuple vient donner au malheur, par sa présence, une marque de plainte et des larmes, il serait sublime pour un criminel de voir courir le monde entier. Mais si le coupable se trouvait seul avec le bourreau, le ciel, un ami et sa conscience, la justice et la religion, je crois que tout ce qui a vie et raison admirerait ce groupe dans la solitude, en se reportant par la pensée à cette dernière scène. « Le voilà ! Le voilà ! Le voilà !» Ces paroles furent dans toutes les bouches, et cette voix collective fut comme le dernier mugissement d'une tempête qui cesse tout à coup. Les têtes se tournèrent vers un seul point, et le silence le plus épouvantable qui jamais ait régné dans une foule s'établit comme s'il eût été ordonné par un pouvoir magique. Il ne fut troublé que par le conducteur de la charrette qui fouettait son cheval et par le roulement des roues sur le pavé. Cette fatale charrette avait paru, et pour l'honneur de l'humanité, toutes les âmes s'étaient réunies dans une même pensée, la plainte de la misère. Argot était dans le tombereau avec M. de Montivert, et pour ceux qui ne connaissaient pas le criminel personnellement, et sans le costume du vénérable prêtre, on eût pris M. de Montivert pour le condamner. Jacques de Durantal était à ses côtés et soutenait le bon prêtre qui pleurait. « Allons, mon vénérable ami, vous qui m'avez réconcilié avec le ciel, vous, mon père en Dieu, du courage! Notre séparation n'a rien de cruel si les espérances de l'homme ne sont pas vaines. Je vais être heureux, et je quitte une enveloppe grossière pour ne plus garder, vous savez, cette belle robe d'innocence. Oh, votre serment, il est toujours là, dans mon cœur. » En disant ces mots, Jacques regardait le firmament avec une expression angélique. La beauté du ciel semblait avoir décoré sa figure de quelque chose de brillant. Les remords avaient disparu pour faire place à l'espoir. Et quand ses yeux tombèrent sur la foule, ce ne fut que pour y distribuer des sourires de bonté qui semaient les regrets. Le char marchait entre deux haies silencieuses. En fermant les yeux, l'on eût cru qu'il n'y avait personne. Le malheur voulait que l'habitation de Madame Servigné ne fût pas loin de cette place, comme on l'a vu, de manière que les cris de « Le voilà ! Le voilà !» suivis de ce silence, parvinrent à l'oreille d'Annette et la rendirent comme aliénée. « Ah ! Ils l'ont tué ! Un seul coup ! » s'écria-t-elle. « Et cette ligne rouge, la voilà ! Oh, je puis rire maintenant, car tout ce qui est sur la terre m'est indifférent. » Il fallut toute la force de Charles et de M. Gérard pour la contenir. Elle les saisissait et lançait des cris indistincts comme un être privé de raison et qui ne parle aucune langue. « Ma fille, ma fille !» disait Mme Gérard d'une voix affaiblie. « Ma fille !»« Ma fille !» répéta Annette. « Je n'ai plus de mère, de père. Tous mes parents sont dans la place maintenant, sur ce tréteau. » Pendant un temps que nulle des personnes qui tenaient Annette ne put déterminer, on n'entendit que des plaintes incohérentes, des pleurs, des sanglots. Cependant, le char était arrivé à l'échafaud. Argot y monta, leva les yeux au ciel, dit à M. de Montivert : « Je vous recommande Annette. Ce fut... Oh, c'est un ange. Adieu. » La foule allait s'écouler en silence lorsqu'une scène effrayante eut lieu avec la rapidité de l'éclair. En recevant le coup, il murmurait « Annette !» dit un homme qui était le plus près de l'échafaud. Soudain, un grand corps, presque gigantesque, s'élança sur l'échafaud. Il avait les bras nus, il les trempa dans le sang de Jacques, et, montrant ses mains au peuple, « Je n'essuierai ce sang, s'écria-t-il, que lorsqu'il sera vengé. Vengeance ! Vengeance ! Tu seras terrible !» Cette action, ces paroles, furent comme un coup de foudre. Vernier, car son nom fut proclamé par le peuple, se jeta au milieu de la foule, qui, saisie d'horreur, se rangea comme si le feu passait, afin de n'être pas taché du sang que Vernier présentait en tendant les mains. Il s'élança sur un cheval et disparut. Il y eut alors, parmi la foule, comme un réveil. « L'avez-vous vu ?»« Oui, il avait un grand manteau noir. »« Moi, disait un autre, je n'ai vu que ses bottes. »« Était-il grand ?»« Il a bien choisi, disait le premier, le côté où il n'y avait point de gendarmes. » Son visage était bien bouleversé, il avait l'air d'un lion qui déchire sa proie. Enfin, il n'y avait pas une personne qui ne parlât de cette apparition qui fut comme un météore. Ce cri de « vengeance » avait retenti dans toute la place comme le son d'un clairon, et cette dernière scène de la tragédie éclipsait l'affreux dénouement. La place se vida lentement, mais enfin, à la chute du jour, tout avait disparu et le calme régnait seulement là, car, dans tout Valence, on ne parlait que du serment de Vernier, et l'on cherchait quelles seraient les victimes de cette promesse sanglante. L'autorité, active et prudente, prit toutes les mesures nécessaires afin que cette insensée fidélité n'eût aucune suite fâcheuse. Mais les gens qui connaissaient ce qu'avait déjà fait Vernier et qui jugeaient son caractère aigri par les événements, n'étaient pas sans de vives inquiétudes. L'on conseilla à M. de Rabon, le chef du jury, et à M. de Ruizon, le procureur du roi, de se tenir sur leur garde. Mais ces derniers, soit par courage civil, soit confiance dans les mesures de l'administration, restèrent dans la plus grande sécurité, protégés qu'ils l'étaient par leur conscience. Chapitre 30. 4 heures après l'exécution, Annette vivait encore, mais l'on a vu dans quel horrible état elle se trouvait. La chambre où gisait sa mère présentait un spectacle affreux. Tout à coup, au milieu de son délire, Annette eut comme une pensée lucide. Elle s'arrêta, ne cria plus, s'assit devant le lit de sa mère, et tout le monde, rangé en cercle autour d'elle, attendit avec impatience les paroles qui allaient sortir de cette bouche, dont les lèvres, jadis fraîches et pures, étaient comme flétries. « Il m'a dit de l'ensevelir !» Cette phrase, prononcée par cette femme au milieu de ce cercle de parents attentifs, avait un tel caractère qu'une terreur froide comme la mort se coula dans les veines des assistants. « Charles ! » dit-elle avec un horrible sang-froid en le montrant du doigt. « C'est vous qui l'avez conduit là, sur la place. Il vous a pardonné cette nuit en m'embrassant. Il me l'a dit d'une voix touchante. Il est mort, la terre est satisfaite. On peut avouer que c'était un ange. Eh bien moi, Charles, je t'inflige, pour peine, d'aller redemander son corps. Je dois lui obéir. Il faut que nous l'ensevelissions à Durantal, dans l'île des Peupliers. Va, Charles, je serai tranquille. » Charles obéit en silence. Annette resta au chevet du lit de sa mère. Madame Gérard tourna lentement ses yeux, déjà dénués de toute leur expression. Et, regardant sa fille, elle lui dit d'une voix sépulcrale « Qu'est devenue mon Annette, cette brillante vierge, qui, les yeux pleins de vie, le visage rayonnant, travaillait à de la dentelle et vivait pure. Oh, ma fille, il faut l'œil d'une mère pour te reconnaître. » « Ma mère, oh mère chérie, bénissez-moi et ne m'accablez pas. Mon fardeau est plus lourd que le vôtre. Vous n'avez encore rien perdu. »« Et l'honneur ! » s'écria la mourante en se mettant sur son séant. Annette baissa la tête et dit à voix basse, « Je me trouve honorée de lui avoir consacré ma vie. C'était une âme née pour être grande et généreuse. Elle le fut trop tard. » Madame Gérard se maintint sur son séant, prit les mains d'Annette, les porta sur son cœur, et dit, avec cette voix et ce sentiment qui rendent ces sortes de scènes pleines de majesté, « Ma fille, tu ne m'as jamais apporté que bien et que consolation. Dieu nous frappe, il a ses raisons. Sois à jamais bénie, car tu fus une fille tendre et une épouse grande et noble. » Elle retomba sur son oreiller en serrant la main d'Annette. Monsieur Gérard vint la regarder et, devinant son intention, Madame Gérard lui dit « Je vais très bien, mon Gérard. » Mais un faible sourire erra sur ses lèvres décolorées. Au bout de 2 heures passées dans l'angoisse et le silence, Charles parut et dit à Annette « Le corps de mon cousin est en route pour Durental. Quand vous voudrez, Annette, nous nous y rendrons. »« Sur le champ, » dit-elle. Elle fut à son père, l'embrassa avec une espèce de folie et déposa un baiser sur le front de sa mère. Madame Servigné resta seule auprès de Madame Gérard. Monsieur Gérard, Annette, Charles, Monsieur et Madame Bouvier montèrent en voiture et partirent, à la chute du jour, pour Durental. « Hier, à 7 heures, il vivait !» dit Annette. Pendant tout le chemin, les 3 cousins remarquèrent une sorte de décomposition dans les traits de l'aimable femme qui succombait sous le poids de ses malheurs. En effet, Annette n'était plus soutenue par la présence de l'être qu'elle chérissait. Il semblait que son énergie se fût enfuie. Alors, toutes les douleurs et les fatigues de cette semaine de désolation, qui se trouvait comme suspendue, fondirent sur elle, et elle ressentit tous les maux physiques et intellectuels qu'elle devait éprouver. On l'entendit se plaindre comme si elle était seule. Elle déplorait surtout une douleur qui lui sciait le cou. Ses jambes, elle ne les sentait pas. Elle étouffait, voulut soulever la glace de la voiture, et elle la laissa, parce qu'elle ne le pouvait pas. Charles sentit des larmes amères couler dans ses yeux, en contemplant ce noble visage jadis si pur, si frais, si gracieux. Toutes les veines du visage étaient marquées. Les cheveux d'Annette étaient devenus, durant cette journée, blancs comme de la neige. Elle ne s'en apercevait pas. Son souffle s'échappait avec peine d'entre ses lèvres blanches. Ses yeux, toujours pleins d'expression, étaient levés vers les étoiles, et ils étaient comme secs et brûlants. Charles lui prit la main. Elle avait le froid de la mort. Charles serra la main de Monsieur Gérard, et le vieillard lui répondit par un regard affirmatif qui le remplit de terreur. Il y a des êtres qui ont, malgré leur peu d'esprit, le don d'être sublimes par un geste, ou peut-être les circonstances seules donnent-elles le ton aux individus. À moitié chemin, Annette se mit à chanter, d'une voix pure et recueillie, comme si elle eût été parfaitement tranquille et heureuse. Ils se turent et l'écoutèrent en silence. Son chant était grave, mais d'une mélodie extraordinaire. Elle ne chantait rien qui fût connu. Sa musique paraissait venir d'une improvisation. L'attendrissement les gagna tous, et ils admirèrent, au milieu du calme de la nuit et des chants, cette Vierge, ce signe qui semblait dire adieu à la terre. Elle avait les yeux constamment fixés sur une étoile, et la lumière des cieux, donnant sur son visage, y jetait d'avance l'auréole des saints. En mettant pied à terre et revoyant Durental qui se dessinait dans les cieux comme un immense géant, Annette pleura. Elle prit le bras de Charles et marcha, avec assez de peine, dans l'avenue. Elle ne se plaignait pas de la faiblesse de ses jambes, mais de la dureté du sol. Charles s'aperçut alors que sa cousine n'avait pas longtemps à vivre. Elle arriva dans son parc, sur lequel elle jeta un dernier coup d'œil. Elle regarda de sang-froid l'île des peupliers, où elle vit briller de la lumière. Mais, avant de s'y rendre, elle voulut monter dans son appartement. Et là, elle embrassa, avec un plaisir amer, tout ce que son mari avait coutume de toucher. Elle revit la chambre nuptiale et déposa un baiser sur la couche. La chambre était restée exactement dans l'état où elle la laissa le jour de l'arrestation de son mari. Elle distribua à tous ceux qui avaient servi à Durantal de l'argent. Et lorsque le secrétaire fut vide, elle y découvrit sur des papiers quelques cheveux d'argot qu'elle donna à son cousin en y joignant une boucle des siens. Elle fit tout cela naturellement. Puis, ayant parcouru les galeries, elle redescendit avec précipitation et sans retourner la tête. Elle s'élança dans le parc, suivie de tous les domestiques, de Charles, de M. Gérard et d'Adélaïde. L'on se mit en marche vers l'île des Peupliers. Les deux nègres portaient le corps de leur maître. Et Annette se repaissait, avec une effroyable avidité, des formes qu'un linge éblouissant laissait apercevoir. Elle tendait les mains comme pour palper encore le seul être qu'elle aima d'amour. Ses yeux avaient même la voracité du besoin. Elle embrassait par sa vue le corps tout entier. « Oh, elle est morte !» se dit Charles. Ce convoi silencieux passa à travers les riantes allées et les prairies de Durantal. La lune environnait le cortège de sa lumière pure et l'on n'entendait que le bruit des pas et celui des feuilles. Arrivés à l'île des Peupliers, l'on déposa le corps de M. de Durantal par terre. Annette s'agenouilla et récita les prières de l'église. Quand cela fut fini, elle se retourna et dit « Tous ceux qui t'ont connu, mon ami, sont là. Je me trompe, ton plus fidèle frère n'y est pas. » « Il y est !» cria une voix sourde, et l'on vit une grande ombre s'avancer, lentement et mystérieusement. « Mais pendant que vous le pleurez, il songe à venger l'amitié. »« Vernier !» dit-elle, en l'amenant vers le corps gisant de son ami. « La mort de tout ce qui a vie ne lui ôtera pas cette fatale ligne rouge. Renonce, sur sa tombe, à faire le mal, et deviens vertueux. » « Non !» Et le féroce lieutenant, levant ses mains ensanglantées vers le ciel, ajouta « J'ai ma religion à moi. Il sera vengé. » À ce moment, les deux nègres, ayant descendu leur maître dans la fosse, avaient jeté une pelletée de terre. Le bruit fit retourner Annette, qui voulait prier, de sa douce voix, l'ami de Jacques. En ne voyant plus de vestiges de cet être qu'elle avait chéri, elle jeta un cri et tomba si précipitamment dans la fosse que les deux nègres lui jetèrent deux autres pelletées de terre. On se précipita pour la relever, mais elle était morte. Ses cheveux s'étaient écartés autour de sa tête et leur blancheur, rendue brillante par le reflet de la lune, lui donnait l'aspect d'une sainte que l'on retirait de sa tombe. Il n'y avait aucun espoir. L'on n'osa pas la séparer de celui qu'elle tenait embrassé par un dernier effort de l'instinct de l'amour. Vernier s'avança et dit « On m'a tué deux amis. Je veux deux victimes. » Et des larmes interrompirent le reste de son discours. Il fut à Charles, tira un portefeuille de son sein et lui dit « Voilà le reste de toute la fortune de Durantal. Je n'en ai que faire. » car j'ai pris tout ce qu'il fallait pour Jeanneton et pour récompenser mes amis. Je n'ai plus besoin de rien. Votre repentir est vrai. Soyez donc le dépositaire de ces 4 millions, et faites-en ce que bon vous semblera. Adieu. Vous entendrez parler de moi, car je vais semer l'horreur dans tout le pays. Mais quelque temps après, on ne parlera plus du tout de Vernier. » Il s'élança dans le taillis. Mais on le vit promptement revenir, et prenant Charles par la main, il le secoua fortement en lui disant d'une voix émue « Je te recommande, Jeanneton. Ne crois pas, parce qu'elle se soit donnée à moi, qu'elle soit une créature indigne d'être aimée. Pour un honnête homme, c'est une autre Annette, s'il est permis de donner ce nom à une créature vivante. Adieu. » On ne le revit plus. Ainsi qu'au théâtre, lorsqu'une fois le nœud d'un drame est tranché, il devient tellement impossible de réussir à intéresser qu'on a fait une loi de cesser à l'instant. Mais la curiosité des lecteurs ne serait pas satisfaite si je n'achevais pas de donner le détail des actions du lieutenant, qui, toutes criminelles et horribles qu'elles soient, ont un genre d'intérêt pour certains lecteurs. Alors, il sera loisible à celui qui ne s'intéresse qu'à Annette et aux criminels d'en rester là. Ceux qui voudront tout connaître n'auront qu'à poursuivre. Malgré toutes les précautions que l'on prit pour annoncer à Madame Gérard la mort d'Annette, elle ne survécut pas longtemps à cette fille chérie. Elle languit encore quelque temps et finit par expirer dans les bras de son cher Gérard. Ce ne sont pas les mourants qu'il faut plaindre. Cette parole touchante est vraie, et M. Gérard le prouva. Par toute la douleur que ce pauvre être éprouva pour se séparer de son bureau des droits réunis, qu'il avait dirigé pendant 30 ans, l'on peut juger de celle qui l'envahit tout entier à la mort de sa femme. Il quittait un être avec lequel il avait cheminé presque toute sa vie. Jamais l'idée d'une infidélité ne lui était venue en tête, et il avait toujours pensé tout haut avec elle. Il pouvait revoir son bureau, mais revoit-on un être perdu pour toujours? Il allait dans Valence, sans but, sans idée, et il n'en eut jamais beaucoup. Mais pour le pauvre homme, être sans guide et sans point de mire, ne plus retrouver au logis le même visage qui lui adressait toujours le même sourire, il faisait pitié, même à ceux qui ne le connaissaient pas, car il semblait qu'à chaque acte d'existence, il lui manquât quelque chose qu'il ne pouvait définir et qui rendit sa vie incomplète. Cette douleur passive, qui reste longtemps et qui, ne se dévoilant en rien dans les actions, reste au fond du cœur et répand sur la vie une teinte d'indécision, est tout aussi touchante que celle qui brise comme l'orage. Il se retira à Durantal et y fit du bien sans éclat. Il allait chaque jour arroser les fleurs qu'il planta lui-même sur leur tombe, car il ne les nomma jamais. Le nom d'Annette ne faisait même pas lire. Enfin, s'il ne resta pas 3 heures sur sa tombe pendant les premiers jours, il y alla perpétuellement, par la pluie, le vent, le soleil, l'hiver, l'été. Et cette triste histoire devait être toujours pour lui comme arrivée de la veille. Les malheureux virent en lui une réunion de 4 êtres qui semblaient vivre en lui et l'accompagnaient toujours. Le lecteur peut se retracer le sous-chef peint dans le premier chapitre de cet ouvrage, et il le verra de même, à la douleur près. Car sa petite et habituelle grimace de bienveillance fut remplacée par le masque éternel de la plainte et de la mélancolie. Il ne vécut pas, il végéta, dans un cercle de bienfaisance et de douleur. Madame Servigné, sa belle-sœur, remplaça sa femme auprès de lui. Adélaïde et son mari prospérèrent, Charles passa en Amérique, et l'on n'a plus eu de ses nouvelles. Cependant, un jour, la Gazette de Colombie annonça la mort d'un jeune Français qui s'était dévoué pour une mission dangereuse. Adélaïde, en apprenant cette particularité, ne douta pas que ce Français ne fût son frère. Maintenant, il ne nous reste plus que Vernier et Jeanneton. Un grand mois s'était écoulé depuis l'exécution de M. de Durantal, et l'on avait cessé de parler de cet événement. Si parfois quelqu'un dans les cercles de la société venait à y penser, c'était pour dire « Eh bien, cet homme qui apparut sur l'échafaud pour annoncer de si grands malheurs, qu'est-il devenu ?»«
L'on n'en sait rien, » répondait-on.
« Il paraît même que malgré tous ses soins, la police en a perdu la trace. »«
Il est loin, » disait un autre. «
quand on a hérité de la fortune de monsieur de Durental, on a bien plus envie d'en jouir que de venir brûler les bicoques de Valence.
Ma foi, à la place de monsieur de Ruisan, je demanderai mon changement. Cet homme a annoncé par ses actes un grand caractère. Il est peut-être comme le chat, qui attend avec patience le moment de s'élancer sur sa proie.
Cependant, au bout d'un mois, le feu de la curiosité s'était amorti. Le procès sur l'évasion de monsieur de Durental n'avait pas eu lieu, parce que l'on n'avait pas réussi à retrouver les vrais coupables. Et rien n'indiquait à la police de Valence que Vernier eut des intentions hostiles. On finit même à cette époque par se relâcher de la sévérité des mesures adoptées pour protéger ceux que l'ami du criminel avait en quelque sorte désignés, et l'on s'endormit sur cette haine sourde. Le nouveau préfet de Valence donnait un bal, et tout ce qu'il y avait de distingué dans la ville y assistait. Monsieur de Ruisan et monsieur de Rabon y étaient, et s'en allèrent vers les 11 heures. À minuit, au milieu d'une contredanse, l'on entendit des cris affreux, des hurlements, et l'horrible bruit d'une multitude de trompettes qui, par leur son, semblait convoquer toute la ville. L'on se porta en foule aux fenêtres, et l'on aperçut une vive lumière qui venait de la place sur laquelle avait eu lieu l'exécution d'Argot. Sur le champ, tout le monde s'y transporta dans la plus vive inquiétude, et en sortant, l'on vit la multitude accourir dans le désordre de gens qui s'éveillent. Quel affreux spectacle se montra au regard des spectateurs indignés. 40 à 50 cavaliers armés, masqués et couverts de grands manteaux noirs, parcouraient la place, en suivant monsieur de Rabon et monsieur de Ruisan, que deux hommes traînaient impitoyablement. Chaque cavalier avait une torche, et tenant les guides de leurs chevaux entre leurs dents, leurs sabres d'une main et leurs torches de l'autre, ils cavalcadaient dans la place avec des hurlements effroyables et en décrivant un cercle. Ce que l'on raconte des cannibales dansant autour de leurs victimes, ou plus encore l'horrible joie des égorgeurs de la Saint-Barthélemy, ou des féroces septembriseurs, rien ne pourrait donner l'idée de cet épouvantable concert donné par la vengeance. Si tout le peuple accouru voulait faire un mouvement pour arracher les deux victimes, soudain les cavaliers se portaient vers l'endroit où les spectateurs faisaient mine de se révolter, et ils montraient sur le champ une forêt de carabines tendues. Ce que l'on se figure du boa et de sa proie était réalisé. La foule, comme charmée, restait immobile. « Aux armes ! Aux armes ! » criait-on de toutes parts. Les uns couraient aux casernes, les autres aux postes voisins. Et pour la seconde fois, Valence était, au milieu de la nuit, en proie à la même épouvante et à la même terreur qui l'agitèrent la nuit de l'évasion de Jacques. Dans le lointain, l'on entendit le bruit des chevaux de la gendarmerie qui accourait au grand galop, et celui des tambours de la troupe de ligne qui venait au pas redoublé. Alors, le grand fantôme noir qui traînait monsieur de Ruisan s'arrêta, descendit de cheval, et le nègre qui tenait monsieur de Rabon en fit autant. Il y eut un cri d'horreur parmi la foule, mais les cavaliers ne firent qu'un mouvement, et cet horrible mouvement arrêta le zèle des habitants. On voyait avec surprise des femmes en robe de bal et toute l'assemblée du préfet mêlée aux habitants. Toutes les fenêtres étaient ouvertes et chacun, une lumière à la main, regardait immobile cette affreuse scène. « Accordez-moi un moment, » dit monsieur de Ruisan à son farouche bourreau, « je veux faire ma prière. »«
Bah, pour un orémuse de plus ou de moins, l'on ne vous donnera pas. »
Si vous voulez qu'on vous accorde du répit à l'heure de la mort, accordez-moi, demanda monsieur de Rabon.
Je ne veux pas de délai quand je mourrai, répondit le nègre.
Les deux têtes tombèrent ensemble.
À la même place, cria le lieutenant.
À ce moment, la foule se précipita, la gendarmerie et les troupes arrivèrent, mais le lieutenant et Milo étaient remontés à cheval. Les cavaliers fondirent sur la gendarmerie, tirèrent presque à bout portant leurs carabines, dissipèrent l'escadron et disparurent avec une telle vélocité qu'il fut impossible de les poursuivre. Valence resta plongée dans la consternation la plus profonde, et l'autorité résolut de détruire ces horribles brigands à tel prix que ce fût. Telle fut la vengeance de l'homme qui ne promettait jamais rien qu'il n'essayât de le tenir. Conclusion. Vernier et ses 40 camarades, n'ayant pas été atteints par la gendarmerie qui les poursuivait, se retirèrent dans les bois. Mais l'autorité ne tarda pas à prendre les mesures les plus vigoureuses pour détruire cette horde de brigands. Un régiment d'infanterie et toute la gendarmerie de Valence furent commandés par un habile officier qui fut obligé de combattre Vernier, absolument comme s'il se fût agi d'une armée entière. Pour Vernier, aussitôt qu'il eut connaissance de la guerre qui lui était déclarée, il se mit en campagne et parcourut le pays en se livrant à des excès qui le rendirent le fléau de cette contrée. Il tombait à l'improviste sur les postes des troupes et les détruisait. Il arrêtait sur les routes, même en plein jour, et se livrait à toutes les cruautés que lui dictaient et son désir de vengeance et son naturel sauvage, que les événements arrivés à son ami avaient aigri. Cependant, d'après les diverses aventures rapportées et dont on tenait registre à Valence, l'on remarqua que le lieutenant et ses complices ne faisaient jamais de mal aux paysans, aux ouvriers, aux malheureux, et même que sa vengeance ne s'exerçait que sur ceux qui faisaient partie d'une certaine classe de la société. Ainsi, il était impitoyable pour les gens de justice, les administrateurs ou ceux qui tenaient à l'administration. Il était cruel pour les gendarmes et les moindres individus attachés à la police. Souvent, il ordonnait de laisser aller les soldats sains et saufs et se contentait de retenir les officiers comme otages. Quelquefois, il donnait de l'argent à ceux qui en manquaient et il payait tout ce qu'il prenait. Dans les fréquentes rencontres qu'il eut avec les troupes, les officiers ne purent s'empêcher de lui rendre cette justice, qu'il était difficile de montrer plus de bravoure et d'audace que lui et que ses gens. Sa résistance fut si longue et son adresse était telle que l'on se vit obligé de lui faire des propositions qu'il n'accepta jamais. Enfin, lorsqu'un de ses gens était blessé, qu'il devenait impossible de le transporter et qu'il était menacé de tomber au pouvoir de l'ennemi, il y avait ordre de l'achever, car Vernier et ses gens craignaient par-dessus tout l'échafaud sur lequel Argot avait péri. Lorsque le hasard voulait qu'un brigand tombât entre les mains des assaillants, Vernier annonçait aussitôt l'intention de mettre à mort tous ses prisonniers, et alors l'on échangea le brigand contre un certain nombre d'officiers. Cette lutte dura pendant un certain temps. Mais, quelque habile que fût le lieutenant, il perdait souvent du monde, et il ne cherchait pas à recruter, quoique bien des mauvais sujets se fussent présentés à lui. Alors, au bout de 3 mois, il se vit réduit à une douzaine d'hommes, aussi adroits et aussi intrépides que lui. Ce combat d'hommes en guerre avec la société pourrait, à lui seul, fournir le sujet d'un ouvrage qui ne laisserait pas d'être curieux par la singularité des maximes, le contraste des caractères et l'intérêt de cette action tumultueuse. Mais ici, une telle peinture n'est pas l'objet de cette conclusion, et nous n'avons rapporté succinctement l'histoire de cette horde qu'afin d'arriver à la mort de Vernier. Après la mort d'Annette et de son mari, Jeanneton s'était retiré à son auberge, et l'administration, instruite de la liaison qui existait entre le chef de cette bande redoutable et la jolie hôtesse, n'avait point inquiété Jeanneton, et semblait fermer les yeux sur l'espèce de complicité de la jeune paysanne. Ce silence était assez facile à interpréter, et Vernier avait assez de ruse pour savoir qu'on ne lui laissait Jeanneton que comme un piège auquel on prétendait le prendre. Néanmoins, le rusé lieutenant n'en vint pas moins chez Jeanneton. C'était chez elle qu'il prenait ses repas, soit le jour, soit la nuit, lorsqu'il se trouvait dans ces parages. L'amour actif de sa maîtresse, les déguisements qu'il savait prendre, sa célérité, sa bravoure, le préservèrent pendant longtemps des dangers qu'il courait. Quelquefois, l'on séduisit les espions qui rôdaient dans l'auberge. Souvent, Vernier se maintint par la force. Mais le danger croissait, loin de diminuer. Un soir, le lieutenant avait fait donner, par ses 12 hommes, une alarme à tous les postes qui entouraient l'auberge. Et ayant éloigné tous ses ennemis, par cette ruse qui lui était familière, il arriva à l'auberge où Jeanneton l'attendait avec impatience, car il y avait environ 8 jours qu'il ne s'était vu, et il l'avait fait prévenir. Jeanneton, avec la même joie, le même amour que le lecteur connaît, préparait donc elle-même le souper de Vernier. Un feu brillant illuminait l'auberge. Chacun de ses gens était aux aguets, et la jolie hôtesse tressaillit en entendant les coups de feu, les cris et les combats, qui emmenèrent assez loin les surveillants et les troupes. Il était 9 heures du soir, la table mise dans la grande salle de l'auberge attendait le maître de Jeanneton. Et comme cette dernière fermait la trappe qui se trouvait au milieu de la salle et dont nous avons donné la description dans le 3e volume, le cri rauque par lequel Vernier s'annonçait ordinairement se fit entendre. Elle laissa sur le champ cette trappe ouverte, se jeta à bas de la table sur laquelle elle était montée et courut au-devant du lieutenant. Lui jetant les bras autour du cou, elle le couvrit de baisers et l'emmena à cette table et devant ce foyer préparé pour lui avec tant de bonheur. Et là, elle redoubla ses caresses et ses questions. « D'où viens-tu? Pourquoi as-tu été si longtemps absent ?» etc. Et sans attendre les réponses, elle lui renouvelle encore un discours, tombant la nécessité de quitter un pays sur lequel il avait assez vengé la mort de son ami, lequel discours faisait toujours froncer les sourcils du lieutenant. Cette fois, il la regarda fixement et lui dit « Jeanneton, ne sais-tu pas que je cherche la mort ?» Que la vie m'est odieuse sans l'ami qu'ils m'ont massacré. » Jeanneton baissa les yeux, sa tête tomba sur son sein, et des larmes qu'elle chercha à cacher roulèrent sur ses joues. « Jeanneton n'est donc rien pour toi, » dit-elle à voix basse. Vernier alors la prit sur ses genoux, et sans lui répondre, embrassa les joues de Jeanneton, partout où les pleurs avaient coulé. « Est-ce qu'un moment pareil ne vaut pas toute une vie ?» lui dit-il après un moment de silence. Jeanneton l'embrassa et lui dit « J'oubliais que du jour que je t'ai aimé, je n'étais plus un être raisonnable. Je dois partager toutes tes pensées. Ainsi tes sentiments sont les miens. » Elle le regarda, et alors elle s'empressa de le débarrasser de son tromblon et de son sac, puis elle l'entraîna à table. Mais cette petite scène l'avait tellement émue que sa gaieté semblait éteinte. En ce moment, un homme à cheval passa sur la grande route sans que personne y fît attention. C'était un gendarme qui, voyant à travers les barreaux une vive lumière, jeta un coup d'œil et, reconnaissant Vernier, il s'empressa d'aller chercher du secours. Le lieutenant et Jeanneton finirent par oublier le moment d'attendrissement qu'il avait si fort ému, et la joie reparut au milieu de leur festin. Jeanneton folâtrait et riait, lorsque tout à coup un bruit de chevaux lui coupa la parole. Elle regarda à travers les croisées, et ses brillantes couleurs l'abandonnèrent. Vernier riait de son effroi, quand le domestique de l'auberge entra et leur dit à voix basse « Ils viennent !» « Ils viennent !» Jeanneton, frappé, répéta « Ils viennent !»« Il y a des gendarmes et un bataillon entier de soldats !»« Des soldats !» répéta encore Jeanneton immobile. En effet, le stratagème du lieutenant avait été réitéré tant de fois car cette dernière il n'avait pas complètement réussi. Les chefs des postes s'étaient contentés d'envoyer à la poursuite des brigands quelques soldats, en gardant la majeure partie de leurs gens, que, sur l'avis du gendarme, ils venaient de mettre en marche sans faire de bruit.
« Jeanneton !» s'écria Vernier.
Et l'infortuné, à ce son de voix, retrouvant toute sa raison, accourut en le regardant avec cette soumission passive qui émeut si puissamment.
« Jeanneton !» répéta le lieutenant. « Ôte la table, mets une échelle à la trappe et sortez tous !»
Les domestiques et Jeanneton exécutèrent cet ordre avec une célérité incroyable. Et pendant qu'ils dressaient l'échelle, Vernier, avec le sang-froid d'une jeune fille qui se mire, prenait son arme terrible et examinait si les amorces, les charges, la poudre étaient en état. Jeanneton, lui jetant un douloureux regard, le vit se réfugier dans le grenier, et elle sortit de l'auberge au moment où le bataillon entrait. Elle fut saisie par un gendarme qui la conduisit de l'autre côté de la grande route et la remit entre les mains de quelques soldats. Elle frémit en voyant son auberge cernée par toutes les troupes, et la certitude qu'elle acquit de la mort de celui qu'elle aimait la rendit immobile, blanche et muette comme une statue de marbre. Ses yeux étaient fixes et attachés sur la partie du grenier où se trouvait Vernier. Ce dernier, réfugié au bord de la trappe, tenait son tromblon appuyé contre le plancher, cachait cette arme terrible sous un peu de paille, et son œil parcourait la salle avec curiosité. Cette salle était pleine de soldats. La maison de Jeanneton fut bientôt parcourue et fouillée dans les moindres recoins. Et quand on vint annoncer au chef que le lieutenant ne se trouvait pas, tous les yeux se portèrent sur l'échelle. Alors, quand on aperçut Vernier, il s'élança un cri terrible.
« En avant !»
s'écria le capitaine, qui grimpa le premier sur l'échelle. Sur le champ, toute la troupe se groupa au bas de l'échelle, et quand elle fut couverte de soldats, le lieutenant, impassible, lâcha la détente de son tromblon. Et, avant qu'un seul fusil de ses nombreux adversaires ne l'eût couché en joue, l'échelle et la salle furent balayées, comme si un canon eût craché son fleuve de mitraille. Chaque soldat était couché, mort ou blessé, et ceux qui ne furent pas atteints se sauvèrent. Vernier avança la tête hors de la trappe. Mais voyant ce carnage, il essuya tranquillement son arme, la rechargea comme un chasseur pourrait recharger son fusil après avoir tiré sur une compagnie de perdreaux, et se mit dans la même position. Les autres officiers traitèrent les fugitifs de lâches, et une seconde fois, un second détachement eut le même sort. Alors on tint un conseil de guerre pour savoir quel parti prendre. Vernier, assez fin pour ne pas ignorer que l'on ne reviendrait pas une troisième fois à l'assaut, débarrassa le plancher des morts qui l'encombraient, et, regardant par la fenêtre ses ennemis qui se consultaient, il hésita s'il ne se mêlerait pas parmi les morts en prenant l'habit de quelques soldats. Lorsque tout à coup, il vit qu'on lui ôtait tout moyen de salut, car on formait un cercle de troupes autour de la maison, et il aperçut allumer des torches. En effet, l'on avait résolu d'incendier l'auberge et de l'entourer de manière à ce que Vernier fût sur-le-champ fusillé s'il faisait mine de vouloir se sauver. Jeanneton criait comme une folle et injuriait les troupes et les gendarmes en exaltant le courage et l'adresse de Vernier. Les troupes, disposées autour de l'auberge, présentèrent à l'œil un cercle de fusils braqués sur la maison, et quelques soldats hardis jetèrent sur le toit et dans les salles des torches et des morceaux de bois allumés, tandis qu'à chaque décharge des fusils, les officiers, par une habile manœuvre, faisait resserrer le cercle. Jeanneton cessa ses cris à l'aspect des flammes qui ne tardèrent pas à s'élever de sa maison, qui, au bout d'une demi-heure, brûla tout entière. À chaque fois que les flammes de l'incendie, agitées par le vent ou par des poutres qui tombaient, semblaient se remuer vers un seul point, le cercle de troupes fusillait cette maison, en dirigeant les balles sur l'endroit où la flamme semblait indiquer la présence du lieutenant. À minuit, les flammes n'avaient plus trouvé d'aliment, tout était consumé, et à la lueur des torches et de l'incendie, dont il s'échappait encore quelques légères flammes, les soldats étaient tous arrivés autour du peu de maçonnerie qui subsistait encore. Et à chaque fois que quelque chose remuait, les soldats, toujours épouvantés par Vernier, tiraient précipitamment. Ils venaient tous de décharger leurs fusils de cette manière sur ces ruines fumantes, et chacun, certain de la destruction du lieutenant, s'était approché. Lorsque tout à coup, du sein de cette cendre noire, s'élève, avec la rapidité de l'éclair, un fantôme noirci qui hurle, se jette sur le côté le plus faible du cercle, le rompt, tue quelques soldats à coups de massue, et à la lueur des lumières, les soldats épouvantés reconnaissent le lieutenant à ses vêtements de cuir, à ses formes sèches et maigres. La stupeur s'empare de tout le monde. Vernier, les mains brûlées, les cheveux en cendres, s'élance vers Jeanneton, qui s'élance elle-même vers lui. À ce spectacle, tout le monde les fuit, s'écarte, et pendant qu'ils se tiennent embrassés, une dernière fusillade les réunit dans une même mort. Il paraît que le lieutenant s'était réfugié dans le caveau où jadis Jeanneton avait enseveli son chevreau, et que la voûte épaisse et toute en pierre du caveau préserva le lieutenant de l'incendie. Mais que, ne pouvant supporter plus longtemps le défaut d'air et l'horrible chaleur occasionnée par l'incendie, il avait préféré une prompte mort que partagea Jeanneton. On les trouva étroitement unis par leur dernier embrassement, et le père Gérard les fit secrètement ensevelir à quelques pas d'Annette et d'Argot. Fin du quatrième et dernier volume.